إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc l'étude de cet épître, les annulatifs de l'islam, du Cheikh, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Il a dit, rahimahullah, الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Le quatrième, c'est-à-dire le quatrième des annulatifs de l'islam, c'est que quiconque croit qu'une voie autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus complète que sa voie, ou que le jugement d'autre que lui est meilleur que son jugement, comme celui qui préfère le jugement des tawarit à son jugement, c'est alors un mécréant. Comme vous le voyez, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a évoqué ici plusieurs questions à travers cet annulatif. Il a donc commencé par dire « Quiconque croit qu'une voie autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus complète que sa voie. » Donc la première question est « Qu'est-ce qui est visé par la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa religion, c'est sa ligne de conduite, celle sur laquelle il a cheminé, c'est-à-dire la voie qu'il a empruntée dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'enseignement ainsi que la conduite qu'il a adoptée en termes de caractère et de comportement. Donc la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des voies et c'est la plus complète des voies. Comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Muslim rahimahullah, d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur des discours est le livre d'Allah et la meilleure des voies est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des voies, c'est la plus complète des voies. Et sa conduite avec les gens, c'était une conduite exemplaire. Il se comportait avec eux de la meilleure manière. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, dans le verset 4 de Surat al-Qalam, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu es vraiment d'une moralité éminente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invité à cette voie. Il a invité à adopter cette moralité éminente. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans Surat al-Shura, au verset 52, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. En vérité, tu guides, tu orientes, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, tu guides vers un droit chemin. Et ce droit chemin, c'est la religion de l'islam. C'est la moralité et le comportement éminent du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il nous a enseigné et dont on trouve la description dans le Coran et dans la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 159 de Surat Ali Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Ceci est donc la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il enseignait aux gens la religion de la meilleure manière. Il ne faisait pas preuve de dureté ou de rudesse dans l'enseignement. Comme cela est rapporté, à titre d'exemple, par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte l'histoire de cet homme qui est entré et a uriné dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a alors ordonné de le laisser terminer.
Puis il a demandé d'aller chercher un seau d'eau pour le verser sur l'endroit où cet homme avait uriné. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé cet homme et lui a enseigné le bien. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Les mosquées ne sont pas construites pour cela, mais elles ne sont construites que pour l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci fait donc partie de la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'enseignement. De même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il supportait et endurait les préjudices causés par les gens. Et il ne se courrouçait pas lorsque quelqu'un était malfaisant envers sa personne. Il faisait plutôt preuve d'indulgence. Par contre, lorsque les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient transgressés, alors il se courrouçait. Il se mettait en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sa colère, elle était donc pour qui ? Elle était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas pour sa personne. Comme l'ont rapporté Al-Bukhari et Muslim rahimahumullahu ta'ala, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Et le musulman, il doit suivre en cela l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout celui qui va emprunter le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit patienter et endurer les préjudices causés par les gens. Et il doit faire abstraction de toutes les atteintes qui sont portées à sa personne. Et sa colère, elle ne doit avoir lieu que lorsque les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont transgressés. Et il en est de même quant à la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa famille. Il se comportait avec eux de la meilleure manière. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah rapporte d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. » Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc comme vous le voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas d'égal parmi les hommes. Aucune voix n'est semblable à la sienne. Alors comment quelqu'un pourrait-il avoir une meilleure conduite que lui ? Donc celui qui prétend que quelqu'un est meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de conduite ou de comportement, ou qu'une voix est meilleure que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il a certes commis en cela de la mécréance majeure qui le fait sortir de la religion de l'islam, et ce, à l'unanimité des gens de science. La deuxième question, elle concerne l'explication de la suite de la parole de l'auteur, rahimahullah, au sujet de celui qui croit que le jugement d'autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est meilleur que le sien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a transmis le message de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc son jugement, il provient d'Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, au verset 105, de Surat An-Nisa, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq li tahkuma bayna an-nas bima araka Allah. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris. Et il a dit au verset 49 de Surat Al-Ma'ida, Wa an ihkum baynahum bima anzal Allah. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jugeait d'après le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après ce qu'Allah lui a appris et lui a révélé. La sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc une révélation de la part d'Allah. Et la sunna, elle explique le Coran. C'est la deuxième source de la religion. Il est donc obligatoire pour le musulman de respecter et de révérer la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce de la même manière que tu respectes et que tu révères le Coran. Également, il est obligatoire pour toi d'accepter les jugements de la sunna, d'accepter les jugements prononcés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, de la même manière que tu acceptes les jugements du Coran. Et celui qui croit qu'il y a un jugement meilleur que celui du Coran et un jugement meilleur que celui de la Sunna, alors celui-ci, il sort de l'islam, et ce à l'unanimité des gens de science. La troisième question liée à cet annulatif, c'est de savoir qu'est-ce qu'il nous incombe vis-à-vis des jugements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est obligatoire pour nous vis-à-vis des jugements prononcés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La réponse à cette question, elle se trouve en partie dans le verset 65 de sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Mais non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris pour juge dans leurs disputes, qu'ils n'éprouveront aucune gêne à l'égard de ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettront complètement, c'est-à-dire à ton jugement et ta sentence. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc juré dans ce verset qu'il n'est pas possible pour le serviteur d'être un réel croyant et de concrétiser sa foi si ce n'est par l'accomplissement de ces trois choses. Premièrement, il est obligatoire pour toi que tu prennes pour juge le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de toutes tes disputes et tous tes différends. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 59 de sourate An-Nisa: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et au messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire, renvoyez-le au livre d'Allah et renvoyez-le à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a dans le livre et la sunna la solution et la réponse à l'ensemble des questions sur lesquelles les gens peuvent diverger. Il est donc obligatoire pour le musulman de prendre les jugements du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas prendre pour juge ton opinion si celle-ci est dépourvue de preuves, mais tu prends les jugements du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, il n'est pas permis pour le musulman de faire prévaloir la parole d'un tel ou d'un tel parmi les gens sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ce quel que soit le rang et le niveau de science qu'a atteint cette personne. Il est plutôt obligatoire de croire avec certitude que la vérité, elle se trouve dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que tout ce qui s'oppose à cela, alors c'est cela le faux, et ceci est la croyance du musulman. Quant à celui qui croit que le jugement d'un homme est meilleur que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est meilleur que le jugement de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors celui-ci, il a mécru car il a commis un des annulatifs de l'islam, comme on l'a vu. Deuxièmement, parmi les choses qui t'incombent vis-à-vis des jugements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu saches qu'il ne suffit pas de prendre pour juge le messager sallallahu alayhi wa sallam, mais il faut que tu acceptes son jugement, il faut que tu sois satisfait de son jugement et que tu n'éprouves aucune gêne à l'égard du jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie de la concrétisation de la foi. Car il y a des gens, ils prennent pour juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne sont pas satisfaits de son jugement. Ils sont gênés par son jugement. Donc pour concrétiser ta foi, tu dois être satisfait et tu dois agréer les jugements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, il faut que tu saches que ceci n'est toujours pas suffisant, et ce jusqu'à ce que tu te soumettes totalement au jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu t'y soumettes aussi bien de façon apparente que dans ton fort intérieur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de ce que renferment les poitrines. Ainsi, celui qui accomplit ces trois choses, qui prend pour juge le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est satisfait de son jugement et qui se soumet totalement au jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il aura concrétisé sa foi il se sera affranchi de son devoir vis-à-vis du jugement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième question, elle concerne le fait de juger par autre que ce qu'Allah a révélé. On a vu qu'il est obligatoire pour le musulman de prendre pour juge le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu que tout ce qui s'oppose à cela est le faux et doit être rejeté. Cependant, on écoute des gens qui prétendent qu'à notre époque les choses ont changé et que les jugements du livre et de la sunna étaient appropriés à une époque qui est maintenant révolue. Et ils prétendent qu'à l'heure actuelle, nous aurions besoin d'autres jugements, d'autres lois plus appropriées à notre situation, comme ils le prétendent. Il est donc important de savoir que tout ceci est de l'apostasie. Celui qui prononce ces paroles et celui qui croit en cela, alors ils ont mécru et ils sont sortis de l'islam et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et telle est la situation de ceux qui prétendent que la charia, la législation de l'islam, n'est pas adaptée à notre époque. Ceci est de la mécréance. Il est obligatoire pour le musulman de croire avec certitude que la charia, la législation de l'islam, elle est appropriée à toute époque et ce, jusqu'à la venue de l'heure. Et c'est même avec cette charia que jugera Isa alayhi salam lorsqu'il reviendra sur terre avant la venue de l'heure. Et tu dois savoir que si la sagesse d'un jugement, elle n'est pas apparente pour toi, que tu ne comprends pas la sagesse d'un jugement du livre ou de la sunna, alors tu dois avoir la ferme conviction que le manquement ou la défaillance, ils proviennent de ta compréhension. Ils ne proviennent pas de la charia. Ils ne proviennent ni du livre, ni de la sunna. Mais la défaillance ou le manquement, ils proviennent de ta compréhension ou de ton manque de science et de connaissance. Mais en aucun cas la défaillance, elle se trouve dans le livre et la sunna. En aucun cas. Cependant, il est important de savoir que le statut de celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il diffère selon sa situation et sa conviction. Le premier cas, c'est celui auquel on vient de faire allusion. Celui qui croit que les peines légales légiférant en islam, comme la peine du voleur, la loi du talion, ou autres parmi les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui croit que ces jugements ne correspondent pas à notre époque, ou que ces jugements ne sont pas appropriés à notre époque, qu'il faut les changer, ou qu'il faut abroger certains versets, ou abroger certains hadiths, ou autres paroles allant dans ce sens, qui sont bien souvent prononcées par des hypocrites ou des infiltrés ayant pour but de corrompre la religion de l'islam. Et toutes ces paroles, ce sont de l'apostasie évidente, car c'est une manière de rejeter le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'accuser le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala de défaillance, et de préférer un autre jugement à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est de la mécréance. Le deuxième cas, c'est celui qui ne préfère pas un autre jugement que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui croit que ses jugements sont égaux et qui croit avoir le choix. Il croit qu'il a le choix entre juger par la charia ou juger par les lois forgées par les hommes. Celui-ci aussi est un mécréant. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de juger par ce qu'il a révélé. Tu n'as donc pas le choix. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 36 de surat al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَا إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc celui-ci, qui pense avoir le choix, et qui met au même niveau la loi d'Allah et celle forgée par les hommes, il a donc rendu égal le faux et la vérité. Et par cela, il est sorti de l'islam, wal'iyadu billah. Le troisième cas, c'est celui qui croit que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur, mais qu'il n'est pas obligatoire, et qu'il est permis de juger par d'autres lois que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-ci aussi est un mécréant, car il a rendu licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Le quatrième cas, c'est celui qui a la ferme conviction qu'il n'est pas permis de juger par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure et la plus parfaite. Et que toute autre loi est fausse et défaillante. Mais il juge par une autre loi, tout en sachant qu'il est dans l'erreur et qu'il commet un péché. Il fait cela, ou bien par suivi de ses passions, ou bien par désir d'un bien mondain, comme de l'argent, ou une fonction au pouvoir, ou autre chose encore. Mais il sait qu'il est dans l'erreur. Il sait qu'il est dans le péché. Alors celui-ci, il ne mécroit pas d'une mécréance majeure, mais il a commis de la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Bien que ça soit un péché d'une gravité immense, cependant, il reste musulman car il n'a pas commis en cela de la mécréance majeure. Et c'est sur celui-ci que s'applique la parole de Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, une mécréance en deçà de la mécréance, c'est-à-dire une mécréance mineure. Le cinquième cas, c'est celui qui juge par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala suite à une erreur dans un effort de réflexion, comme le savant qui est en mesure de faire cet effort-là. Donc celui-ci, il n'a pas voulu s'opposer à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, il a cherché le jugement conforme à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'a pas vu juste et il s'est trompé dans son effort. Donc son erreur, elle est pardonnée et il a une récompense pour son effort de réflexion. Comme il est venu dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah, d'après Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le juge fait un effort de réflexion et qu'il ajuste, alors il a deux récompenses. Et s'il fait un effort et qu'il se trompe, alors il a une seule récompense. Donc celui-ci, son erreur est pardonnée car il n'a pas voulu s'opposer à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc la réponse détaillée à cette question qui fait partie des questions importantes et des problèmes courants à notre époque. Cinquièmement, est-ce que le jugement, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, est réservé et limité au conflit entre les gens, ainsi qu'aux peines légales, ou bien est-ce plus large que cela? En effet, beaucoup de personnes, même parmi ceux qui s'affilient à la prédication et à la science, ils pensent que juger par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se limite aux conflits qui sont réglés dans les tribunaux seulement. Et il n'y a pas de doute que ceci en fait partie. Mais ce n'est pas limité à cela. C'est bien plus large. En effet, le fait de juger par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela englobe tout d'abord toutes les questions liées à la croyance du musulman. Il est indispensable que ta croyance, elle soit conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, aussi bien dans son livre que dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Que cette croyance, elle concerne l'unicité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore la seigneurie ou les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci doit être conforme à ce qui se trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De même, en ce qui concerne les adorations, elles doivent être conformes au livre et à la sunna. Et les adorations, elles ne doivent pas être innovées. Il est donc obligatoire pour nous d'appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet. Et tout ce qui s'oppose au livre et à la sunna, et qui ne se trouve pas dans le livre et à la sunna comme adoration, alors ceci est faux et rejeté. De la même manière, en ce qui concerne le commandement du bien et l'interdiction du mal, tu dois te restreindre en cela à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman, il ne doit pas emprunter un chemin non légiféré pour cela. Un chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas pour ses serviteurs. Comme l'ont fait grand nombre parmi les gens de l'égarement à notre époque, en prétendant vouloir lutter contre le mal et l'injustice de certains gouverneurs. Ils se sont alors révoltés contre eux, ils se sont soulevés contre eux par des manifestations ou autres, et ceci est contraire à la charia. Ceci est contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il doit revenir dans l'ensemble de ses œuvres au Qur'an et à la sunna. Ce qui est conforme au Qur'an et à la sunna, alors on le met en pratique. Et ce qui s'y oppose, on le délaisse, on le rejette. Il en est de même en ce qui concerne les autres domaines de la religion. On sait ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est obéissance ou ce qui est péché, d'après la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'après le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le jugement par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est général. Il ne concerne pas seulement les discordes ou les jugements dans les tribunaux. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit être appliquée dans tous les domaines. Et cela ne concerne pas seulement les gouverneurs, mais cela concerne toutes les catégories de la société, et ce, chacun à son niveau, et selon ses capacités, ce qui est de son ressort. Tu appliques ce qui t'incombe parmi les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de ta personne et de ceux qui sont sous ta responsabilité. Il est donc obligatoire pour tous, gouverneurs et gouvernés, de mettre en pratique et de se conformer aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une compréhension manquante et défaillante de penser que juger par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala est réservé aux gouverneurs et que cela est réservé aux tribunaux. Tu te dois d'appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton foyer, sur ta propre personne, en te soumettant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant ses interdits. Tu dois te soumettre aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ceux qui sont sous ta responsabilité, comme ton épouse et tes enfants. Commence donc par appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton propre foyer. Et ensuite, inshallah, le bien et la réforme, ils vont se propager dans la société. Quant à ceux qui commencent par réclamer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et son application de la part des gouverneurs, mais qui oublient leur propre personne, qui s'opposent à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, ils sont plongés dans les péchés, plongés dans les désobéissances. Ils se détournent des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne vois pas l'islam ni dans ses paroles ni dans ses actes. Puis il vient te dire, tel ou tel gouverneur ne juge pas par les lois d'Allah. Mais toi mon frère, est-ce que tu juges par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu as mis en pratique la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ta personne? Est-ce que tes œuvres sont les œuvres conformes au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tes paroles sont conformes au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam? Remets-toi en question d'abord. Commence par ta propre personne. Applique la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ta personne. Le bien, il se propagera, inshallah. Il faut donc commencer les choses dans leur ordre, en commençant par les bases de la religion, en réformant sa croyance, en réformant sa manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses adorations, en réformant sa manière d'agir, en délaissant les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et en se rapprochant de lui par son obéissance. Enfin, l'auteur rahimahullah, il a donné un exemple et il a dit, comme celui qui préfère le jugement des tawarit à son jugement, c'est alors un mécréant. Donc pour terminer, on va simplement voir le sens du mot tawarit. Le mot tawarit, c'est le pluriel de tawarut en arabe. Et dans la langue arabe, cela désigne ce qui pousse à dépasser les limites. Et dans la législation, on trouve, dans les paroles des gens de science, de nombreuses définitions. À titre d'exemple, l'imam Malik rahimahullah et d'autres parmi les salafs ont dit que le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en sachant qu'il est important de souligner ici que pour être un tarout, il doit être satisfait de cette adoration. Car celui qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'agrée pas cela, comme c'est le cas par exemple de Isa alayhi salam, ou autre que lui parmi les prophètes alayhi salatu wa salam, ou les vertueux qui ont été adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela il n'agrée pas d'être adoré en dehors d'Allah. Donc, il n'est pas juste de les nommer tawarit. Donc, le tawarit, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qui est satisfait de cette adoration. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a dit, cet avis est très fort, car il englobe tout ce sur quoi étaient les gens de la jahiliya, les gens de la période pré-islamique, comme adoration des idoles, et le fait de les prendre pour juges. D'autres ont dit que le tarout, c'est les devins et les démons. Al-Sha'bi, Ata et Mujahid, rahimahumullah ta'ala, ils ont dit le tarout, c'est le diable, le devin et toute tête de l'égarement. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné tous les avis concernant le sens du mot tarout, et ce dans le tafsir du verset 60 de Surat An-Nisa, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. Ils veulent prendre pour juge le Tâghout. Il a dit, rahimahullah, le verset est plus large que tout cela, c'est-à-dire que toutes ces définitions. Car il condamne celui qui délaisse le livre et la sunna et prend pour juge autre que cela parmi le faux. Ceci est donc la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Et la meilleure des définitions concernant le Tâghout est celle qu'a mentionné l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et qu'on a vu dans la conclusion du livre « Les trois fondements ». Et c'est sa parole, rahimahullah, « Le Tâghout, c'est tout ce qui pousse le serviteur à dépasser ses limites, comme être suivi, adoré ou obéi. » Et il est obligatoire pour le musulman, donc, de mécroire au Tâghout et de ne pas faire prévaloir les lois du Tâghout à celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il doit plutôt mécroire au Tâghout et croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci était donc quelques questions liées à cet annulatif. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non contre nous au jour de sa rencontre. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.